Chapitre 10. Simon savait que s'il appelait la police, il pourrait remonter jusqu'à son portable. Il pourrait éviter cela en les alertant depuis une cabine téléphonique. Pourrait-il déguiser sa voix? Agatha et Tony étaient drogués. Il lui faudrait attendre et se tenir aux aguets dans l'espoir qu'il pourrait emboîter le pas à Jessica et Rex quand il s'en irait achever le travail et contacter le commissariat à ce moment-là. L'idéal serait de les prendre tous deux sur le fait devant le cottage de Mrs. Fremantle. Mais cela le rendait malade d'envisager que Tony puisse être froidement éliminé dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Le soir laissa enfin place à la nuit. Jessica et Rex s'en furent dîner à la cantine puis regagnèrent la caravane. « Mets le réveil sur 2 heures du matin, » ordonna Jessica à Rex. « Je suis vannée. » Les heures se traînaient. Simon était trop terrifié et trop bouleversé pour fermer l'œil. À 2 heures du matin, il entendit le réveil sonner et Rex annoncer. « Je vais chercher le fauteuil roulant de Rosie. » Rosie Buxton était une actrice âgée qui jouait le rôle d'une vieille sage des Malvern Hills. Le cerveau de Simon fonctionnait à toute allure. Il y avait sûrement une lueur d'espoir. Il avait été question de drogue et de morsures de serpents. Mais il n'avait pas dit qu'elles étaient mortes. Il se résolut à téléphoner à la police. Il camoufla l'appareil sous les ajoncs et s'élança à travers la lande vers l'endroit où il avait garé sa moto. Tony reprit péniblement conscience et cligna des yeux. Elle constata qu'elle se trouvait à l'arrière de la voiture d'Agatha et que Rex était au volant, Jessica à côté de lui. Elle se pencha doucement vers Agatha, lui plaqua une main sur la bouche et commença à la pousser du coude. Les paupières d'Agatha s'ouvrirent brusquement. Tony posa un doigt sur ses lèvres. Agatha fixa avec incrédulité les nuques de Rex et de Jessica. Simon attendait avec la police auprès d'un barrage routier à l'entrée de Carsley. « Vous êtes vraiment sûr ?» demanda Bill Wong. « Je vous l'ai déjà dit, je les soupçonnais depuis le début et j'ai écouté près de leur caravane. » Simon avait finalement décidé de s'arrêter à la première cabine sitôt sorti de la zone des Malvern Hills et avait téléphoné à la police. « Vous ne contrôlez pas les routes depuis les Malvernes ?» demanda-t-il désespéré. « Si, il y a une alerte générale, nous les aurons, à moins que vous n'ayez tout inventé. » Bill n'avait guère d'estime pour Simon. Il se souvenait qu'après avoir fait la cour à Tony, il était entré dans l'armée et s'était fiancé à une autre jeune femme qu'il avait abandonnée quasiment à l'hôtel. « Un petit sagouin à qui on ne peut faire aucune confiance », pensa-t-il en observant anxieusement la route. « On arrive bientôt ?» demanda Jessica avec impatience. « Je prends les petites routes, » répondit Rex. « Je ne tiens pas à ce qu'on nous repère. »« Où sont les serpents ?»« Dans le coffre. Ferme-la et laisse-moi conduire. » Agatha sentait la fureur s'emparer d'elle. Si la voiture ralentissait, elle pourrait prendre le risque de se laisser rouler dehors. Mais si Rex avait un revolver? Elle fouilla dans son sac à la recherche d'une arme de fortune, aussi silencieusement que possible, de crainte d'attirer l'attention de Rex. Ses doigts se refermèrent sur une bombe de laque à cheveux extra forte. Ils étaient maintenant sur la route romaine. « Nom d'un chien des gyrophares bleus !» s'exclama Rex. « Je vais tourner à Arne !» Agatha espérait qu'il ralentirait pour faire demi-tour, mais il donna un violent coup de volant au moment précis où elle s'inclinait vers lui et lui aspergeait le visage de laque. Il hurla et lâcha le volant. Hors de contrôle, le véhicule plongea dans un stand de kebab ouvert toute la nuit sur le bas-côté. Une énorme broche, chauffée au rouge et chargée de viande brûlante, défonça le pare-brise et atterrit sur les genoux de Jessica. Un flot de café se déversa sur la face ensanglantée de Rex. Agatha et Tony s'étaient agrippés au siège de devant et blottis derrière pour éviter d'être projetés en avant. Tony sauta de la voiture et courut sur la route, agitant désespérément les bras pour arrêter le véhicule de police qui approchait. Puis elle revint, aidant Agatha à s'extraire de l'épave. Elles s'accrochèrent l'une à l'autre en proie à un léger vertige. Elles s'étaient toutes les deux cognées la tête. Le fourgon de police arriva à toute allure et freina dans un grand crissement de pneus. Deux agents jaillirent et se ruèrent vers le véhicule accidenté. L'un d'eux sortit un téléphone et réclama une ambulance d'urgence. Un petit bonhomme replet, avec une barbe de 3 jours, fit irruption sur les lieux en vociférant. « Qu'est-ce qui va payer? Je sors une minute et boum! Voilà que j'entends ce sacré boucan !»« Rangez-vous sur le côté, monsieur !» ordonna l'un des policiers. « Nous allons prendre votre déposition dans un instant. » Une ambulance de l'hôpital de Morton arriva peu de temps après, escortée par des voitures de police. « Est-ce qu'ils sont morts ?» demanda Agatha. « Reculez, madame. Nous nous occuperons de vous dans 5 minutes. » Agatha et Tony les regardèrent dégager la broche à kebab géante, puis Jessica. Le visage en sang, elle gémit faiblement quand on la déposa sur une civière et dans l'ambulance. Ils soulevèrent ensuite Rex, immobile et inerte. Un infirmier se courba sur lui, tâta son pouls et se redressa en secouant la tête. Bill Wong et l'inspecteur Wilkes arrivèrent. Bill alla droit vers les deux femmes. « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous sentez-vous? Faut-il vous emmener à l'hôpital ?»«
Ils nous ont drogués, » répondit Agatha.
« Nous sommes revenus à nous juste avant le tournant. J'ai envoyé de la laque dans la figure de Rex et il a perdu le contrôle de la voiture. »
Le jeune Simon nous a prévenus. Il y a l'évidence des serpents dans le coffre et il projetait de vous laisser dans le jardin de Mrs. Fremantle dans l'espoir qu'on lui imputerait vos assassinats.
Comment a-t-il découvert leur plan ?
S'enquit Tony.
Il s'inquiétait pour vous et il a écouté près de leur caravane.
L'appareil d'écoute, pensa Agatha. Je parie qu'il l'utilisait.
Bill fit signe à Alice Peterson. Emmenez Mrs. Raisin et Miss Gilmore à l'hôpital afin qu'on leur fasse des prises de sang. Il nous faut la preuve qu'elles ont été droguées. Une fois les prélèvements faits, Alice s'efforça de persuader Agatha et Tony de rester se reposer à l'hôpital, mais toutes deux insistèrent pour rentrer chacune chez elles. Agatha, épuisée, franchit le seuil de son cottage, caressa ses chats et se pencha pour remplir leur bol d'eau. Elle constata que ses mains tremblaient. Elle n'avait qu'un seul désir, retrouver son lit et laisser s'effacer les images terrifiantes de l'accident. Elle grimpa lentement l'escalier. Elle ouvrait la porte de sa chambre quand elle surprit un léger ronflement dans la chambre d'amis.
Charles.
Et où était-il donc, cette girouette, pendant qu'elle échappait de justesse à la mort?
Il roupillait comme une souche, se dilettante.
Une rage folle s'empara subitement d'elle. Pourquoi n'avait-elle pas auprès d'elle un homme, un vrai, pour veiller sur elle et la protéger?
Eh bien, tout allait changer, et sur le champ.
Elle entra en trombe, secoua vigoureusement le dormeur en criant « Dégage !»
« Qu'est-ce qui te prend ?»
s'enquit Charles abasourdi.
« J'ai failli être assassinée. Voilà ce qui me prend. Je ne veux plus te voir jamais !»
Elle redescendit dans la cuisine en martelant chaque marche et s'assit devant la table, tremblant de la tête aux pieds. Au bout d'un moment, Charles descendit à son tour. Il gagna directement la porte et sortit. Agatha éclata en sanglots hystériques. Elle finit par se ressaisir. En remontant dans sa chambre, elle vit qu'il avait abandonné sur la table de l'entrée le jeu de clés qu'elle lui avait donné. Elle fut éveillée 3 heures plus tard par la sonnerie perçante du téléphone. Avec un gémissement, elle jeta un coup d'œil à la pendule. 9 heures du matin. Elle attrapa le combiné. Alice Peterson était à l'autre bout du fil.
« Je viens vous chercher pour vous emmener faire votre déposition. »«
Mais j'ai à peine dormi 3 heures !»
protesta Agatha.
« C'est indispensable. Je vous ramènerai chez vous tout de suite après et vous pourrez retourner vous coucher. Ne dites rien à la presse !»
Ignorant les coups de sonnette frénétiques à sa porte, les journalistes sans doute, Agatha alla se doucher et s'habiller. Elle masqua de son mieux ses cernes sombres avec du fond de teint, se poudra et mit du rouge à lèvres. Vêtue d'un tailleur pantalon de cachemire corail, elle descendit juste à temps pour entendre Alice lui crier à travers la boîte aux lettres qu'elle était là. Dès qu'elle apparut, elle fut saluée par un crépitement d'appareils photo et une grêle de questions des reporters. Agatha ouvrit la bouche pour faire une déclaration, mais Alice siffla entre ses dents.
« Pas un mot à la presse avant le jugement, bon sang ! Montez dans la voiture !»«
Est-elle vivante ?» demanda Agatha tandis qu'elle sortait du village. Jessica Fordyce est en soins intensifs. Elle souffre de multiples coupures et de brûlures au 3e degré. Rex est mort. Il ne conduisait qu'à 70 km/h quand il a perdu le contrôle de votre voiture. S'il n'était pas entré dans ce stand de kebab, il serait encore vivant.
Alors c'est moi qui l'ai tué ?
Oui.
Tant mieux. Et le producteur ?
Il a avoué avoir donné de faux alibis. Il a dit que le feuilleton n'existait que par Jessica. Et aussi qu'il ne pouvait pas imaginer une seconde qu'elle ait commis ces crimes et donc qu'il n'avait vu aucun mal à mentir pour elle.
Elle doit être complètement folle.
D'après ses analyses de sang, elle consommait des amphétamines à haute dose. Ça peut provoquer des psychoses et il semblerait que son cerveau ait subi quelques dommages. Rex venait d'un foyer dysfonctionnel. Il était fiché pour de petits larcins avant qu'il ne devienne mannequin et ne commence à percer. Jessica devait le tenir d'une manière ou d'une autre. Il savait qu'elle n'avait qu'à insinuer qu'elle voulait un nouveau jeune premier pour le faire éliminer de la série. À mon avis, la télévision est une drogue en elle-même. Quand je travaillais dans la publicité, j'ai croisé de pauvres types qui étaient prêts à débourser 2000 livres par semaine juste pour passer à la télévision.
En arrivant aux abords de Mercer, Agatha aperçut tout à coup un homme blond vêtu d'un costume d'une coupe élégante. Mais ce n'était pas Charles. Elle se rappela soudain la manière dont elle l'avait jeté dehors.
« Pas question de m'excuser », se jura-t-elle farouchement en refoulant de son mieux une certaine culpabilité, car elle soupçonnait qu'elle s'était conduite comme une démente.
Alice alla se garer près de la porte arrière du commissariat pour éviter les journalistes.
Vous devriez partir en vacances, conseilla-t-elle. La presse du monde entier va s'abattre sur votre village.
Agatha comprit immédiatement qu'elle allait encore se mettre à dos les autres villageois. Nombre d'entre eux s'étaient installés à la campagne en atteignant la retraite, dans l'espoir d'y passer paisiblement leurs vieux jours. On introduisit Agatha auprès de Wilkes, qui avait une mine harassée. Certains des bureaux avaient été rénovés, mais celui-ci était resté tel qu'elle l'avait toujours connu. Chaises dures, tables balafrées, murs d'un verre acide. Bill siégeait à côté de Wilkes, face à elle. Il affichait un air extrêmement professionnel. Rien dans son expression ne trahissait le fait qu'ils étaient amis. Il songeait justement, en réalité, qu'Agatha faisait bonne figure malgré ses récentes expériences. Ses cheveux bruns brillaient dans la faible lumière et elle était très bien maquillée.
« Qu'est-ce qui vous a conduite à les suspecter, Mrs. Raisin ?» demanda Wilkes. « Commencez par le commencement. »
Agatha expliqua comment Simon avait découvert que le producteur était prêt à tout pour amadouer Jessica, ce qui l'avait amené à se demander s'il n'avait pas menti en garantissant ses alibis. Ensuite, elle décrivit la façon dont elles avaient été droguées et comment elle avait repris conscience juste à temps pour asperger Rex de Lac. L'interrogatoire se poursuivit, avec beaucoup de retours en arrière et de bons en avant, si bien qu'Agatha fut à la longue tentée de se mettre à hurler.
Toute cette affaire repose sur la personnalité de George Marston, conclut enfin Wilkes. Apparemment, ce garçon avait le don de rendre les femmes complètement cinglées, et peut-être que Rex lui-même lui faisait des avances. Qu'avait-il donc de si spécial ?
Agatha revit soudain George dans son jardin, tout environné de fleurs.
Il était incroyablement beau, dit-elle lentement. On oubliait sa jambe artificielle. En fait, ça le rendait d'autant plus fascinant. C'était la figure du héros blessé, etc., etc. Il avait énormément de charme. Je suppose qu'il donnait à toutes les femmes le sentiment qu'elles étaient uniques. Je vais vous dire, avec lui, je me sentais féminine et la plupart des hommes ont perdu cet art. Depuis que le féminisme s'est imposé, les hommes ne voient plus la nécessité de courtiser les femmes. Je pense maintenant qu'il nous a toutes menées en bateau. Il me semble que c'était quelqu'un qui avait autant besoin de séduire que de respirer. Et pourtant, quand il a été assassiné, je n'ai pas véritablement éprouvé de chagrin. C'était comme si j'étais sortie d'une espèce de champ de force. Vous me suivez ?
Pour moi, c'est de la psychologie de bazar, répliqua Wilkes. Est-ce que le jeune Simon utilisait un appareil d'écoute ? Non, je ne le permettrai pas.
On va contrôler ça. Veuillez rester disponible pour le cas où nous aurions d'autres questions à vous poser. Tony devait passer après elle, et Agatha lui proposa de l'attendre. Mais Tony insista pour qu'elle rentre chez elle se reposer un peu.
« Je ne peux rien vous dire pour le moment, » répondit consciencieusement Agatha au journaliste aux aguets devant son cottage. Elle se servit un grand gin tonic et l'emporta au jardin. On sentait déjà dans le fond de l'air une légère fraîcheur annonciatrice de l'automne. Elle se laissa tomber dans un fauteuil et alluma une cigarette. Ses chats se poursuivaient sur la pelouse. Puis elle entendit quelqu'un la héler sur sa droite. La tête de son ex-mari dépassait de la haute palissade de cèdre.
« On va l'escalader, » annonça-t-il.
« Qui ça, nous ? Mrs. Blugsby est là. Nous voulons éviter la presse. As-tu une échelle ?»
Agatha alla en chercher une dans l'abri de jardin et l'appuya contre la clôture. Mrs. Blugsby descendit maladroitement, tandis que James franchissait rapidement l'obstacle.
« Venez vous asseoir, » les convia Agatha. « Je suis vraiment heureuse de vous voir. Je peux vous offrir quelque chose ?»«
Reste tranquille, » répondit James. « Mrs. Blugsby, que puis-je vous apporter ?»«
Juste du café, s'il vous plaît. »
J'ai entendu les informations à la radio, qui ne disaient pas grand-chose d'ailleurs, si ce n'est qu'ils ont arrêté quelqu'un, dit Mrs. Blugsby, tandis que James disparaissait dans la maison. Mais au village, on ne parle que de l'accident à Arne.
Attendez que James soit là, et je vous raconterai tout, promit Agatha.
Elle souffla un rond de fumée en l'air.
Je me demande comment j'ai fait ça, s'exclama-t-elle. Quand j'essaye, je n'y arrive jamais.
James revint avec des tasses de café, du sucre, du lait et une assiette de biscuits sur un plateau. Agatha, d'une voix lasse, leur raconta ses aventures. Après avoir déjà répété plusieurs fois son histoire pour Wilkes, il lui semblait qu'elle entendait sa propre voix lui revenir en écho.
J'ai vu Charles arriver hier, commenta James lorsqu'elle eut fini. Au moins, tu n'étais pas seule cette nuit.
Charles, il a dû repartir avant que je ne me lève ce matin.
Tu deviens de la même couleur que ton rouge à lèvres, remarqua James.
Il se figurait qu'Agatha rougissait parce qu'elle avait fini la nuit avec Charles et s'aperçut que cette idée le contrariait.
« Tu me traites de menteuse ?» dit Agatha en haussant le ton.
« Oui, tu
Tu es presque aussi coureuse que George Marston.
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Tu sais très bien que Charles considère mon cottage comme un hôtel.
S'il vous plaît,
intervint Mrs. Blacksby. Mrs. Raisin vient juste de passer par des moments terribles. Ne criez pas.
Je ferais mieux de partir, lança James en se levant. Si jamais tu te sens le courage de dire la vérité un de ces jours, Agatha, préviens-moi.
1 000 000 000 de salopards à sonnette! En quoi est-ce que ma vie privée te regarde? On a divorcé, je te rappelle!
James regagna l'échelle d'un pas raide et disparut par-dessus la palissade. Une larme coula sur la joue d'Agatha et tomba dans son jean.
Qu'est-ce qui ne va pas, en vrai? Demanda Mrs. Blacksby avec sa douceur habituelle. C'est ce gros choc? Peut-être devriez-vous vous faire aider?
Ce n'est pas ça, avoua Agatha en s'essuyant les yeux. C'est Charles. Quand je suis rentrée après avoir frôlé la mort, il ronflait paisiblement dans la chambre d'amis. J'ai perdu la tête. Je l'ai prié de déguerpir.
Mais pourquoi?
Je me disais qu'un homme digne de ce nom aurait veillé sur moi.
Oh, Mrs. Raisin, comment le malheureux aurait-il pu deviner ce par quoi vous veniez de passer? Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens changent brusquement de caractère pour s'adapter au moment présent.
En tout cas, il ne m'adressera plus jamais la parole. Et James est parti furieux. Le village grouille de journalistes et tout le monde va m'en vouloir.
Vous devriez peut-être prendre des vacances.
Je ne peux pas, gémit Agatha. La police demande que je reste ici à sa disposition.
Elles se turent toutes les deux. Petit à petit, Agatha se sentit plus calme, comme gagnée par la paix et la tranquillité qui émanaient de la femme du pasteur. Au bout d'un moment, Mrs. Blacksby reprit la parole.
Vous est-il venu à l'esprit que Miss Fordyce pourrait être innocentée?
Agatha la dévisagea avec stupeur.
Mais c'est impossible! Elle a été prise sur le fait, avec Tony et moi encore à moitié droguée sur le siège arrière. Comment diable?
Si elle sait que Rex est mort, elle pourrait dire qu'il la manipulait et la terrorisait et l'accusait d'avoir commis tous les meurtres.
Agatha sortit son portable et réussit à joindre Bill Wong.
Est-ce que Jessica est au courant de la mort de Rex? Lui demanda-t-elle. Dans ce cas, elle peut tout rejeter sur lui.
Nous y avons pensé. On nous permettra peut-être de l'interroger un peu plus tard aujourd'hui. Nous avons donné pour consigne stricte de ne pas lui en parler.
Tout va bien, dit Agatha en raccrochant. On a interdit de le lui dire.
Jessica se sentait très faible et elle redoutait que son visage n'ait subi des blessures irréparables. Une jeune infirmière entra pour vérifier tous les tubes fixés sur son corps.
Comment vous appelez-vous?
Demanda Jessica dans un murmure.
Mary Donovan, miss. Apportez-moi un miroir, Mary. Je ne crois pas que vous devriez vous inquiéter de ça pour le moment. Guérissez vite. Quand je pense à toutes les fois, je vous ai vu à la télé. Dites-moi, est-ce que Rex est mort?
La police nous a dit que personne ne devait discuter de l'affaire avec vous. Reposez-vous seulement.
S'il vous plaît, Mary, ça n'est pas discuter de l'affaire. Il faut que je sache. Écoutez, je suis innocente et quand je retournerai à la télévision, je vous obtiendrai un rôle.
Moi? À la télé?
Pourquoi pas?
Des pas résonnèrent dans le couloir.
« Oui, le pauvre garçon est mort !»
chuchota Mary, juste au moment où un médecin pénétrait dans la chambre.
« Docteur ?» questionna Jessica. « Est-ce que mon avocat est déjà là ?»«
La police viendra vous interroger plus tard dans la journée, et je pense qu'il sera présent. »
Jessica réfléchit intensément. Elle allait pouvoir se tirer d'affaire. Elle feindrait d'être plus affaiblie encore qu'elle ne l'était pour retarder l'interrogatoire. Par une venteuse journée d'avril, quelques mois plus tard, Agatha, Tony et Simon se retrouvèrent devant la prison d'Old Bailey sous le panneau de l'entrée qui proclamait « Défendez les enfants des pauvres et châtiez les criminels ».
« J'ai besoin d'un remontant », grogna Agatha. « La défense m'a donné l'impression que c'était moi le malfaiteur ».
L'interrogatoire que leur avait fait endurer l'avocat de Jessica, Lord Hollinsby, avait laissé les trois détectives complètement démoralisés. C'était Simon qui était resté le plus longtemps à la barre des témoins. Lord Hollinsby avait exhumé le mariage manqué de Simon et son départ ignominieux de l'armée pour raisons psychiatriques. Puis, ils avaient dû sacrifier une journée entière pour escorter les jurés jusqu'à la caravane de Jessica afin qu'ils vérifient par eux-mêmes si, de l'extérieur, on pouvait entendre ce qui se disait à l'intérieur. Tous assurèrent que ce n'était pas le cas. Tony, qui lui avait succédé, s'était fort bien défendu sans dévier d'une ligne dans son récit de leur enlèvement sous l'effet des narcotiques. Ce matin-là, Agatha était passée sur le grill. Avant qu'elle ne soit appelée à la barre, la vieille Mrs. Arnold de Carsley avait attesté que Mrs. Raisin était éperdument amoureuse de George Marston, suivie par Joyce Hemingway qui avait qualifié Agatha d'hystérique. Son tour venu, Agatha avait malencontreusement perdu son sang-froid et asséné à Lord Hollingsby que s'il s'imaginait que Jessica était l'innocente victime de Rex Dangerfield, il fallait qu'il soit un crétin fini. Elle savait qu'elle avait produit une mauvaise impression. Ils allèrent se restaurer dans un café voisin où Agatha résuma la situation. Comment Jessica a-t-elle réussi à obtenir une libération sous caution? Voilà qui me dépasse complètement. Et elle a dû avoir recours à la chirurgie esthétique. Elle va comparaître cet après-midi. À mon avis, le procureur n'est pas très pugnace. Elle ne devrait pas s'en tirer comme ça, cependant.
Ça n'aurait rien d'impossible, répondit Tony.
Elle est accusée de meurtre. Or, elle a fait certifier par un psychiatre ultra connu que Rex la terrorisait. Si seulement elle n'avait pas autant d'argent pour se payer les meilleurs avocats et les plus célèbres psychiatres. Je n'avais jamais cru ceux qui prétendent qu'il y a une loi pour les riches et une pour les pauvres, mais j'ai bien l'impression que c'est de cela qu'il s'agit là.
Simon, reprit Agatha, je vous pose encore une fois la question. Avez-vous utilisé l'appareil d'écoute?
Oui, répliqua Simon d'un ton de défi. Et si je ne l'avais pas fait, il vous aurait liquidé toutes les deux.
Puis-je vous rappeler, martela Agatha glaciale, que c'est moi qui nous ai sauvés. Vous avez dit que vous l'aviez emporté chez vous au cas où la police fouillerait l'agence. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Je l'ai enterré dans votre jardin.
Quoi? Quand ça?
Pas très longtemps après l'arrestation de Jessica et la mort de Rex. Je craignais que la police ne fouille mon appartement. Aussi j'ai profité d'un moment où vous étiez au téléphone pour l'enfouir chez vous un jour que j'étais passé vous voir.
Abruti! Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est à donner l'impression que vous avez tout inventé.
Simon s'inquiétait pour nous, glissa Tony. Je n'ai jamais compris pourquoi vous n'avez pas alerté la police immédiatement. Ils auraient été surpris avec les corps de deux personnes droguées et beaucoup d'explications à donner.
Je voulais qu'ils soient vraiment pris sur le fait. Autrement, ils n'auraient eu qu'à prétendre que vous aviez trop bu.
Et ces faux alibis? Demanda Tony. D'après les sources policières de Patrick, ils n'ont réussi à prouver sa présence sur la scène d'aucun des crimes.
Mais lorsqu'elle a déclaré qu'elle dînait à Morton avec Rex, au moment du meurtre de Mrs. Glossop, il n'y a que sa parole pour le garantir.
D'autres clients s'en souviendraient sûrement. Elle est célèbre.
Eh bien, il y a un intervalle de temps qui leur aurait permis de revenir à Carsley. En fait, j'ai failli prendre l'un d'eux en flagrant délit. Ne tardons pas trop à y retourner. Patrick nous garde des places.
La comparution de Jessica débuta par un instant hautement théâtral. Un rayon de soleil tomba d'une fenêtre poussiéreuse et l'éclaira comme un projecteur. Elle paraissait plus belle que jamais. Elle était remarquablement fardée, d'une manière qui accentuait sa pâleur, les yeux soulignés de cernes. Agatha se dit qu'elle n'avait pas vu de maquillage aussi habile depuis la fameuse interview dans Panorama où la princesse Diana avait parlé de ménage à trois. Dès les premiers mots du contre-interrogatoire, Agatha mesura avec découragement combien elle avait sous-estimé le talent d'actrice de Jessica en la classant comme une simple vedette de feuilleton sentimental. Son jeu méritait un Oscar. Elle décrivit, d'une voix entrecoupée, la terreur que Rex lui inspirait. Rex avait menacé non seulement de la tuer si elle ne lui obéissait pas, mais aussi d'assassiner sa mère. Il lui avait assuré que si elle essayait de contacter la police, il le saurait immédiatement.
Sa mère ? Chuchota Agatha à Patrick. « Folle alliée, dans un asile, elle ne va jamais la voir, » marmonna Patrick.
« Chut !» leur intima-t-on sans aménité. La voix de Jessica se brisait par moments. Elle s'adressa au jury, tendant vers eux ses mains tremblantes en un geste de supplication plein de pathos. Rex était obnubilé par George Marston. Il disait que s'il ne pouvait pas la voir, il voulait que personne ne l'ait. Le comportement de George, ses liaisons avec des vieilles femmes l'écœuraient et il jugeait qu'elles ne méritaient toutes que d'être éliminées de la surface de la terre. Et là-dessus, elle s'effondra en pleurs. À la grande consternation d'Agatha, une jurée porta son mouchoir à ses yeux. Le juge demanda à Jessica si elle souhaitait une suspension de l'audience, mais elle essuya ses larmes et répondit qu'elle préférait continuer. Le procureur fit de son mieux, mais finit par avoir l'air d'un bourreau sans cœur. Finalement, les magistrats se levèrent.
« Espérons que le résumé du juge remettra les choses en place, » soupira Agatha.
Ils y retournèrent le jour suivant. Lord Hollingsby prononça un plaidoyer passionné. Le procureur attaqua de façon concise et sèche. Le résumé du juge fut impartial, mais Agatha trouva qu'il invoquait trop le pour et le contre. Elle avait espéré une condamnation nette et franche. Le jury se retira pour délibérer. On n'annonça pas de résultat le lendemain. Ce ne fut que le surlendemain qu'ils furent avisés que le jury allait rendre ses conclusions. Le verdict tomba. Non coupable. Une grande acclamation secoua tout le prétoire. « Sortons de là, » dit Agatha. « Je me sens mal. » Il avait plu, mais le soleil revint à point nommé pour accompagner l'apparition de Jessica devant les journalistes du monde entier.
« Tout ce que je peux dire, c'est que je déborde de gratitude, »
lâcha-t-elle avant d'être entraînée dans une limousine par deux gardes du corps.
« Un peu léger comme déclaration, »
commenta Tony.
« Ça veut dire qu'elle a vendu son histoire au plus offrant, » répondit sarcastiquement Agatha. « J'ai le moral à zéro, rentrons à la maison. »
Jessica avait vendu son cottage de Carsley. Un autre été s'annonçait et le village sombrait de nouveau dans la torpeur habituelle des Cotswolds, comme s'il n'avait jamais été déchiré par le meurtre de George, puis de Mrs. Glossop. Joyce Hemingway et Mrs. Fremantle avaient également déménagé en se débarrassant de leur maison. La sœur de George hériterait de son frère au terme d'un long processus légal, si bien que celle de George restait vide. Agatha n'avait pas revu Charles. Elle avait essayé plusieurs fois de lui téléphoner, mais s'était entendue répliquer fermement par son majordome Gustave qu'il n'était pas là. Elle lui avait écrit, envoyé des messages, sans jamais recevoir de réponse. James était à l'étranger et Roy avait décliné ses invitations. Agatha se sentait abandonnée, malgré le réconfort que lui procuraient les visites de Mrs. Blugsby et de Bill Wong. Elle devait reconnaître que Charles lui manquait vraiment. Elle n'avait pas lu la version de Jessica diffusée dans un journal du dimanche. Jessica demeurerait toujours à ses yeux son seul grand échec. Elle avait résolu de prendre des vacances, mais l'idée de voyager seule ne la tentait guère. L'appareil d'écoute récupéré dans son jardin était caché dans le placard sous l'évier de la cuisine. Par un dimanche matin ensoleillé, Bill Wong vint la voir. « Quoi de neuf ?» lui demanda-t-elle en le conduisant dans le jardin. « Pas le moindre crime sensationnel. » « Mais êtes-vous au courant pour Charles ?
Quoi donc, il va bien ?»«
Oh oui, c'est juste que je viens d'apercevoir dans le Times de ce matin l'annonce de ses fiançailles. »«
Pas avec cette horreur de Pulcheria ?»«
Non, avec une certaine Crystal Stretton, fille du colonel et de Mrs. Stretton. »«
Il ne vous l'avait pas dit ?»«
Non. En fait, cela fait presque un an que je ne l'ai pas vue. »« Vous savez, la nuit où Jessica et Rex ont tenté de nous tuer, j'étais à bout de nerfs. Et quand je suis tombée sur lui dans la chambre d'amis... J'ai perdu la tête et je l'ai jeté dehors.
Il doit quand même avoir lu le récit de toutes vos épreuves dans la presse.
Il n'aura pas eu tous les faits avant les comptes rendus du procès, où je dois être campée comme une harpie nymphomane, tout droit sortie des enfers.
Vous pourriez vous excuser?
Je lui ai envoyé des messages, je lui ai écrit, j'ai essayé de lui téléphoner.
Oui, mais lui avez-vous véritablement présenté des excuses?
Pas vraiment. Je voulais le faire face à face.
Donc, vous vous êtes contenté de quelque chose comme « contacte-moi ».
À peu près, oui.
Mais il aurait dû comprendre.
C'est difficile, à moins d'être doué d'un sixième sens. On parle aussi de Jessica dans le journal.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Encore disjoncter et tuer quelqu'un d'autre?
Malheureusement, non. J'aimerais bien la pincer d'une manière ou d'une autre, mais elle part à Hollywood. Elle a réussi à décrocher un rôle important dans un film avec Tom Hanks.
Et son contrat pour le feuilleton?
À l'évidence, le nombre de téléspectateurs dégringolait et ils ont décidé d'arrêter. Le fait est que, passé l'euphorie de sa libération, le public a commencé à se poser des questions sur son innocence.
Et ça n'a pas gêné Hollywood!
Elle a un excellent responsable de communication, un certain Harry Curry.
Ce type n'a aucune morale et n'en a jamais eu.
En tout cas, je suis content qu'elle quitte le pays.
Pourquoi?
Pendant un temps, j'ai craint qu'elle ne s'attaque à vous. J'ai assisté à ses interrogatoires et je jurerais que c'est une psychopathe incurable.
Bon, eh bien je crois que ça restera dans les annales comme un de mes échecs.
Le vôtre et celui de la police, conclut Bill.